Qu'est-ce que je vous avais dit par rapport? Il y a trois choses pour lesquelles un enfant de Dieu doit être connu. La prière, l'attachement à la parole de Dieu et l'attachement à l'Église, exactement. Vous devez être connu comme des gens qui prient, comme des gens proches de la parole. Et comme des gens qui supportent l'œuvre de Dieu sur terre, qui prennent l'Église au sérieux. Et quand je dis vous devez être connu pour cela, j'entends bien sûr alors votre entourage direct, mais j'entends également des esprits mauvais, des anges de Dieu. Prenons acte, s'il vous plaît. Acte. Plusieurs points très intéressants dans le livre des Actes. Hein. On va prendre Actes chapitre 19. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Actes chapitre 19. À partir du verset 13. Prenons même le verset 11. Acte 19, verset 11. Et nous allons lire plusieurs versets ensemble. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12. De sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mais quelques-uns aussi des Juifs exorcistes qui couraient çà et là, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins, disant, je vous adjure par Jésus que Paul prêche. Donc ces gens-là, ce qu'on appelle des exorcistes ambulants, allaient et chassaient des démons un peu partout. Donc là, ils ont essayé de chasser ces démons avec le nom du Seigneur Jésus que Paul prêchait. Et il y avait sept fils de Séva, juifs, principal sacrificateur, qui faisaient cela. Mais l'esprit malin, répondant, leur dit, je connais Jésus et je sais, écoutez bien, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Paul était un homme connu du monde spirituel. Les gens savaient qu'il était dans le monde spirituel. Enfin, les esprits savaient qu'il était dans le monde spirituel. Les esprits mauvais, les anges, Dieu savait qui était Paul. Est-ce que votre corps sait qui vous êtes? Est-ce que vos finances savent qui vous êtes? Est-ce que vous vous rendez compte que chaque action de votre vie porte une conséquence éternelle? J'ai entendu une fois une personne qui a dit « N'oubliez pas vos paroles, à quel point elles sont puissantes. Vous ne savez pas combien de fois une parole qui sort de votre bouche va être répétée dans la tête de la personne qui l'a entendue. » Encore et encore et encore la parole demeure. Vous repensez à ce qu'on vous a dit. Est-ce que votre corps est au courant que c'est vous le chef de votre corps? Est-ce que vos pensées sont au courant que vous êtes le chef de vos pensées? Est-ce que vos finances sont au courant que vous êtes le chef de vos finances? Ou est-ce que c'est elles qui vous dominent? Ou est-ce que vos pensées vous dominent? Ou est-ce que c'est clair dans votre environnement que c'est vous le chef? Est-ce que votre environnement, est-ce que votre corps vous connaît comme une personne de la parole? Ou une personne de parole, soit dit en passant? Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup. Si on la traduit littéralement, ce serait dit, les murs ont des oreilles. Tout entend. Ok, je ne savais pas que ça se disait en français. Ok, merveilleux. Tout entend votre parole. Tout vous voit. Tout vous voit. Tout. Dites Alléluia. Dites par Christ, je suis plus que vainqueur. Constamment, sans cesse, sans mesure, ma victoire est absolue. C'est ma destinée, c'est ma nature, c'est mon droit. Et j'en jouis pleinement au nom de Jésus-Christ. Donc, on voit dans ce passage des Écritures que les démons savaient qui était Paul. Intéressant. Les démons qui étaient dans la personne savait qui était l'apôtre Paul. Et vous notez que le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Les démons n'ont pas reconnu l'autorité de ces personnes qui utilisaient pourtant le nom de Jésus. Ce qui veut dire que nos paroles doivent être chargées de foi. On parle de paroles, juste pour le commentaire qui a été fait. Nos paroles, c'est intéressant, nos paroles ne sont pas chargées d'Esprit Saint, mais par contre elles sont portées par l'Esprit Saint. Ce sont deux choses légèrement différentes. Nos paroles sont chargées de foi, et puisqu'elles sont chargées de foi, elles sont portées par l'Esprit Saint. D'accord ? Mais c'est vrai, en soi, sur le principe final, c'est qu'on doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Prenez Hébreu. Donc je vous ai dit, vous devez mélanger vos paroles à votre foi, n'est-ce pas ? La version Darby de Hébreu, chapitre 4, verset 2. Prenez vos Bibles et regardez l'Écriture. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est bien éclairé, tout le corps le sera aussi. C'est pas pour rien que je vous dis de regarder dans vos Bibles. C'est parce que quand vous posez vos yeux, ça peut être sur un téléphone, hein, quand vous posez vos yeux sur les Écritures, il y a un effet opérant sur vous. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que cela. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Donc la parole de Dieu, ou les paroles même qui sortent de votre bouche, les paroles de Dieu peuvent sortir de votre bouche, amen. La Bible dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. Quand vous dites « je suis prospère », c'est Dieu qui parle. Quand vous dites « je suis en bonne santé », c'est Dieu qui parle. Ce qui d'ailleurs me pointe sur le blasphème. Qu'est-ce que c'est un blasphème ? On pourrait résumer ça comme ça, effectivement. L'irrespect de l'identité de Dieu, ce qui en soi se joint à toi, parce que Dieu est vérité. Mais le fait de dire un mensonge n'est pas un blasphème en soi. C'est le fait de mal représenter Dieu. Non. Un blasphème, c'est lié à Dieu toujours. Donc, quel est le nom de Dieu ? Dans un seul endroit, Dieu se donne un nom à part Jésus-Christ. Je suis, exact, Exode 3. Vous vous rendez compte que la Bible dit que le blasphème, c'est utiliser le nom de Dieu en vain. Réfléchissez quand vous dites « je suis malade ». Ce que ça fait. « Je suis pauvre ». C'est un blasphème. Vous utilisez le nom de Dieu contraire à ce qu'il dit. Donc vous dites « je suis ». Vous voyez ? Vous êtes malade ? Vraiment ? Ou est-ce que votre corps ressent quelque chose qui est contraire à Dieu ? Vous pouvez dire, vous savez, la foi ne nie pas ce qu'on ressent. Hein, d'accord ? La foi ne dit pas « non, je n'ai pas de cancer » alors que la personne elle a une énorme tumeur. La foi, elle dit « la parole de Dieu surpasse cette perception de mes sens ». C'est ça que la foi, elle dit. Ok ? Donc vous pouvez dire « je suis plus que vainqueur ». Vous pouvez dire « je suis béni, je suis fort ». Vous savez que « je suis », c'est un des noms que Dieu se donne. Moïse lui demande « qui m'enverra ?» Ou plutôt « qui m'envoie ?» Et Dieu lui répond « tu lui diras « je suis t'a envoyé ». Et quand Dieu dit « je suis », il dit « je suis tout ce dont le bien peut être ». Je suis la victoire, je suis la réussite, je suis la sagesse, je suis la vérité et la vie et le chemin, je suis l'alpha et l'oméga. Chaque fois que Dieu se décrit comme « je suis ». Pourquoi ? Parce que en Dieu vit l'intégralité de qui est Dieu. Donc la parole de Dieu doit être mixée avec de la foi, n'est-ce pas ? Donc là, il y avait ces fameux gars qui allaient et ils disaient « au nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme, au nom de Jésus, sors de cet homme ». Et le démon les regarde droit dans les yeux et dit « Et toi, qui es-tu » Si vous regardez le verset suivant, les hommes n'ont pas répondu. « Qui êtes-vous » Ils n'ont pas répondu. Parce qu'à l'instant même, l'esprit s'est jeté sur eux pour leur défaire leurs vêtements et les battre. La Bible nous dit qu'ils étaient sept, c'est juste, hein, les sept fils de Séva. Et l'esprit de Dieu, l'esprit méchant, pardon, excusez-moi, l'esprit méchant s'est jeté sur sept personnes et les a toutes battues. Donc, notre foi et nos paroles doivent être mélangées ensemble. Amen. Donc, prenons bien note de ça. Amen. Notre parole doit être mélangée à notre foi, sinon elle est sans valeur. C'est pour ça que certains d'entre nous ont dit, je serai là à telle heure. Et on se pointe avec une demi-heure de retard. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas qu'on sera là à telle heure. Dans notre cœur, on sait qu'on aura peut-être un peu de retard. Et en fait, ça façonne notre monde. Mais vous avez remarqué que les démons savent qui vous êtes. Ils vous écoutent. Où que vous soyez, les murs vous entendent. Les chaises vous entendent. Tout vous entend. Pourquoi? Parce que tout a été créé par des paroles. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit que Dieu dit que les arbres soient produits, les arbres furent produits. Il dit que les animaux grouillent dans l'océan, les animaux grouillèrent dans l'océan. Tout répond à la parole de Dieu. Tout. Dites tout répond à la parole de Dieu. Dites moi-même je réponds à la parole de Dieu. Ok, mais alors, vu que vous devez mélanger votre foi, voyez, à cette parole, comment au niveau pratique le faire? Comment vivre dans cette foi? Vous croyez en Dieu, la Bible dit c'est bien. Le diable croit aussi et il tremble. Donc croire en Dieu ne suffit pas, on doit agir en conséquence. Une des premières choses qu'on fait en agissant en conséquence, c'est de confesser Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus-Christ nous a dit, au travers de Hébreux, que la foi doit être mélangée à la parole pour qu'elle porte du fruit. Prenons Romains chapitre 10 et verset 17. Dites, je suis plus que vainqueur. Dites, l'échec a été annulé de ma vie. Dites, la perte a été ôtée de ma vie. Dites, je suis rentré dans un cortège de victoire, de célébration constante. Continuons. Nous étions donc dans, la Bible dit, dans Romains chapitre 10 et 17, verset 17, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou parole de Christ, ça dépend des versions, c'est la même chose de toute façon, amen. Donc, quand vous êtes dans la parole de Dieu apporte cette foi. Mais la question intéressante, pour l'enfant de Dieu, d'où vient cette foi? Pour le non-chrétien, notez que cette foi vient, ce qui veut dire que la foi répond à l'appel de la parole. Ok? Donc, d'où vient cette foi? Pour le non-chrétien, c'est facile. Elle vient du trône de Dieu. C'est le Saint-Esprit sur lui. La Bible dit dans Jean 16 que le Saint-Esprit était déposé afin de convaincre de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. J'ai pris note où j'étais un peu vite. Jean 16, aux alentours du verset 11, mais allez vérifier quand même. La Bible dit quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et après, il précise de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ce qui veut dire que pour le non-chrétien, quand on lui parle la parole de Dieu, la foi lui vient de où? Du Saint-Esprit qui est sur lui. Le Saint-Esprit est sur lui et lui donne la foi pour commencer à croire en Dieu. Amen. Maintenant, qu'en est-il du chrétien? D'où vient cette foi? Qui est chrétien ici? Qui croit en Jésus-Christ ici? Levez la main. Ok. Romains 12, verset 3. Notez que c'est Romains 10, 17 et Romains 12, verset 3, donc c'est pas loin. Vous avez trouvé? Romains 12, verset 3. La Bible nous dit, car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser d'une manière à avoir des saines pensées. Comment? selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Notez qu'il n'est pas dit selon une mesure de foi, mais selon la mesure de foi. Ce qui veut dire que pour l'enfant de Dieu, cette foi ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de lui. Donc Dieu a mis en vous, dites « j'ai en moi », dites-le « j'ai en moi », la mesure de foi. Elle m'a été départie. Elle est à l'intérieur de moi. Et elle sort de moi quand je médite les Écritures. Donc vous passez du temps dans les Écritures et vous avez cette foi qui sort de l'intérieur de vous. C'est pas comme l'enfant de Dieu, la personne pardon, qui n'est pas enfant de Dieu, où cette foi peut venir, partir, venir, partir, venir, partir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Dieu a même créé dans l'être humain une sorte de réaction naturelle où quand il y a des choses graves, tout d'un coup, cette personne qui prétendait ne pas croire en Dieu va commencer à appeler Dieu. Pourquoi? Parce que cette foi, elle vient, elle part. Donc, il croit en Dieu quand il y a besoin et il ne croit plus en Dieu quand il n'y a plus besoin. Elle vient, elle part, elle vient, elle part. Vous voyez? Et c'est notre rôle à nous de faire qu'elle reste jusqu'à temps qu'il confesse Jésus-Christ et reçoive cette foi à l'intérieur de son esprit. D'accord? Donc, regardez. Dites, j'ai la foi. 2 Pierre chapitre 1 verset 1. Dites, je cogite sur ces choses. J'aimerais que vous arrêtiez de vous voir comme autre chose que ce que Dieu vous voit. Vous avez vu le rhapsody d'hier, ne soyez pas attirés par les gens dont le succès. Ne soyez pas divertis par les gens, n'admirez pas les gens qui sont sans Dieu. N'admirez pas ces gens. Ils n'ont rien d'admirable. Je vous garantis, j'ai affaire à des gens très riches tout le temps. Ces gens sont malheureux, malheureux, malheureux. Malheureux, malheureux. Alors, bien sûr qu'en tant qu'humain, nous ne sommes pas là pour chercher le bonheur. Notre but sur Terre, c'est de servir Dieu. Point final. Rien, aucune autre raison que d'être sur Terre. Et bien sûr, intrinsèquement, ça amène le bonheur. Hein. Ne vous méprenez pas, n'est-ce pas? On avait dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, comment on a reçu cette foi? Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dites, j'ai reçu la foi. Par la justice de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc cette foi a été déposée à l'intérieur de vous, c'est fait. Regardez, elle est à l'intérieur de vous. La même foi qui opérait dans Pierre, dans Paul, dans Christ, est à l'intérieur de vous maintenant, opérante. La question, c'est qu'elle sort de votre esprit quand vous méditez sur les Écritures. Quand vous méditez sur les Écritures, elle sort de votre esprit pour vous peindre une image de ce que la parole de Dieu dit de vous, dit de votre monde et dit de votre environnement. Et dit de Dieu, et dit des démons, et dit de vos amis, de n'importe quel sujet. Donc en fait, cette foi, elle va sortir, elle va se mêler à la parole de Dieu qui est dans votre oreille ou dans votre cœur pour sortir un résultat et enfanter le miracle, enfanter le surnaturel. Ok, faisons un exercice. Vous êtes prêts pour l'exercice? Fermez-vous une seconde, tout le monde. Moi, je garde les yeux ouverts, donc fermez les yeux tous. Je vous vois ceux qui ont les yeux ouverts, attention. Imaginez-vous maintenant, dans une salle de trône royal. Prenons plus moderne. Imaginez-vous dans un tribunal normal, mais fédéral, un grand tribunal. Imaginez que vous n'êtes ni l'accusé, ni l'accuseur, si on dit ça. L'accusateur, ni le ministère public, vous êtes le juge. Maintenant, j'aimerais que, tout en gardant les yeux fermés, vous preniez la position que vous auriez dans un tel tribunal si vous étiez juge. Position physique, comment vous tiendrez? Assis, vous pouvez rester assis, pour ceux que je vous vois vous lever, voilà. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'est... Vous pouvez vous redétendre maintenant, c'est bon. Vous pouvez ouvrir les yeux, merci. Donc tout ce que j'ai fait, c'est vous peindre une image de qui vous pourriez être. Et vu que vous savez que c'est possible, parce que vous savez comment un juge fonctionne dans notre pays et tout ça, vous avez agi en conséquence. Sans même être vraiment un juge. À combien plus forte raison Vous qui êtes vraiment enfant de Dieu, si vous avez cette image de l'enfant de Dieu victorieux que vous êtes, vous allez commencer à agir en conséquence. Et la Bible dit que nous jugerons les anges. Donc vous êtes juge. Amen. Donc, regardez. Là, ce n'était pas une foi spirituelle, c'était une foi humaine. Parce que vous avez tous déjà vu comment est un tribunal, même dans un film ou comme ça. Vous avez toujours vu que le juge se tient ultra droit, qu'il est toujours très classe, qu'il a toujours sa robe. Les juges hommes n'ont jamais, jamais, je crois qu'ils n'ont même pas le droit en fait, d'avoir de la pilosité. Alors, je ne dis pas, messieurs, d'aller vous raser, hein, mais dans le sens qu'il y a quelque chose de très strict. Donc, vous avez une idée claire de ce que c'est, n'est-ce pas? Donc, vous avez agi en conséquence de cette image que vous aviez à l'intérieur de vous, avec une foi humaine, sans être cette personne. Imaginez, en étant enfant de Dieu, avec la foi surnaturelle de Dieu qui vient du Christ, et avec une image qui vient de la parole de Dieu, à combien plus forte raison vous arrivez, pas pour le coup à vous tenir droit physiquement, mais à vivre dans ce que Dieu a pour vous. Vive dans ce que Dieu a pour vous. Pourquoi ? Parce que vous devez avoir une image juste. Quelle image avez-vous de vous ? Tout comportement que nous avons aujourd'hui est un reflet direct de l'image que nous avons de nous, du monde et ce qui nous entoure. Tout. Tout, tout, tout. Et cette image, elle peut être tellement plus profonde qu'on pense. Dites l'image de Christ est mon exemple. Je grandis selon l'image du Christ pour être dans cette victoire perpétuelle. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Alléluia. Dieu est bon. Dieu n'est que bon. Dieu veut votre réussite. Dieu veut votre succès. Dieu veut votre avancement. Dites Dieu veut mon bien. Dites Dieu n'a jamais prévu mon échec. Dites sa parole est suffisante pour m'enseigner toutes choses. Dites il n'a pas besoin de l'échec pour m'enseigner. Il a juste sa parole pour m'enseigner. Vous voyez, on a cette image de Dieu qui, des fois, nous envoie un échec pour nous apprendre une petite leçon. C'est faux. Vous vous rendez compte à quel point c'est blasphématoire de dire une chose pareille ? Qu'on parle de blasphème, là, c'est intéressant. Tu vois, on attaque la nature de Dieu. Non, 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 non. Là, on est en train de dire, au lieu de dire « Dieu est bon », on est en train de dire « Dieu est pas bon ». Vraiment, hein ? Vous vous rendez compte que il y a cette image où Dieu, ça voudrait dire que ça, c'est un blasphème contre sa parole, ça voudrait dire que sa parole n'est pas suffisante pour nous amener tout savoir. Alors que la Bible dit dans 2 Timothée, pardon, chapitre 3, verset 16, que la Bible est suffisante pour corriger l'être humain. D'accord ? Donc Dieu n'a pas besoin de vous envoyer des malheurs. Dieu ne vous envoie pas des malheurs. Sa parole est suffisante. Bah, prenez-le vite. 2 Timothée, pardon, chapitre 3, verset 16. Regardez ce que la Bible nous dit. Ha, ha, c'est tellement merveilleux. Dites Alléluia. 2 Timothée 3, 16. Non, Dieu m'a envoyé un truc pour me corriger, pour m'apprendre quelque chose. Dieu m'a envoyé cette maladie pour m'apprendre un truc. Dieu m'a envoyé cette situation difficile pour m'apprendre un truc. Regardez ce que la Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Donc ça veut dire que Dieu n'a jamais prévu d'utiliser un malheur. Quand vous voyez un malheur qui vient, sachez que c'est toujours, 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 toujours le diable qui essaie de vous voler quelque chose. Et vous savez quoi ? Laissez-moi vous renseigner sur le diable un peu. Quand il vient comme ça, il essaie de voler la paix. Donc, ok, il est impossible de voler à Antoine Rolls-Royce. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a pas. Pas encore. Donc, regardez, si le diable vient vous voler votre joie, ça veut dire que qu'il y avait la joie. Si le diable vient vous voler votre santé, ça veut dire que si le diable vient vous voler votre motivation, ça veut dire que si le diable essaie de voler la discipline, ça veut dire que il y avait la discipline. Vous avez compris, alléluia. Donc ça veut dire que le diable, chaque fois qu'il essaie de vous voler, il se tire une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce qu'il manifeste le fait que vous soyez héritier de Christ. Parce que, regardez, il y a des gens qui n'ont jamais de problème. Vous avez remarqué ? Il y a des gens qui n'ont jamais de soucis, on dirait. Ils sont comme ça au chômage, inscrits, au social, et ils vivent leur vie au social, tranquille. Ouais, tout va bien, de toute façon, ils font rien de leur journée et tout. Jamais de problème, jamais le moindre truc. Pourquoi ? Parce que le diable n'a rien à voler. Après, le diable les déteste, il peut aller voler leur santé, il peut voler plein de choses. Mais vous voyez, regardez. vous, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et je le dis sans honte, mais en particulier dans cette église, ce ministère, on est quand même formés pour être des gens qui vont au-delà, des gens qui vont toujours en haut, des gens qui vont, c'est ce qu'on appelle, qu'on avait vu dans l'école de fondation, l'exceptionnalisme de Love World. On est quand même projetés dans un truc où on vit que dans le succès. On ne voit que le succès, on ne voit que la réussite. Et le diable va essayer de venir vous voler ces choses-là. Mais le fait qu'il essaie de les voler prouve que vous les aviez déjà. Amen. Dites, je les ai déjà.
Je les ai déjà.
Alléluia. Dites, je suis plus que spirituel. Je vis dans le spirituel. Dites, je vis dans les dimensions spirituelles. Dites, je vais chercher à l'intérieur de moi la force que Dieu a déposée, les finances que Dieu a déposées, l'excellence que Dieu a déposée. J'aimerais que vous compreniez que Dieu ne va pas vous envoyer quelque chose, mais tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous, ma sœur, mon frère. À l'intérieur de votre esprit se trouve tout ce dont vous avez besoin. Vous avez une idée de business, il n'y a pas de capital à sortir et à arriver de l'extérieur. C'est à l'intérieur de vous. Faites-le sortir par vos paroles de foi. Vous faites sortir ça en mélangeant la parole de Dieu à la foi et vous vivez dans le succès que Dieu a pour vous. Dites, je ne manque de rien. Dites, Dieu m'a équipé de tout équipement nécessaire pour marcher dans la grandeur et le succès, dans l'excellence constante, dans la réussite absolue, dans le succès constant, dans la santé constante, pour la gloire de Christ. Dites, je gagne des âmes pour le royaume de Dieu. Dites, je soumets mon monde à Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va avoir cette convention des hommes. Cette convention des hommes est très importante. Bon, il y a un seul gars là, mais, enfin moi et un seul gars. Mais parlez-en à vos hommes dans votre entourage. On va observer quelque chose. L'homme, le mâle, doit assujettir son monde. Il doit soumettre ses finances, il doit soumettre sa femme, il doit soumettre ses enfants, il doit soumettre toutes ces choses-là. Mais la première règle pour comprendre la loi de la soumission, c'est quoi? C'est de comprendre que lui-même est soumis à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « Sois un homme, cherche Dieu ». Vous savez, c'est quelque chose que j'observe. J'aime bien observer. La plupart des hommes, les mecs, vont réussir à assujettir quelques domaines de leur vie. C'est toujours l'un ou l'autre. Fitness, travail ou femme. Ils n'arrivent jamais à assujettir leur vie en ensemble sous la courroie de la discipline et de l'excellence. C'est rare d'en voir beaucoup comme ça. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc nous aurons cette conférence pour les hommes. Ça va durer environ 2 heures. Ça va être merveilleux. On va apprendre aux jeunes. Vous savez d'ailleurs, il y aura un dress code, messieurs, hein, pour cette conférence des hommes. Minimum semi-formel. Pourquoi? Parce que, voyons, c'est un truc de gars. Mesdames, vous, pendant les conférences de femmes, vous allez faire vos ongles et vos cheveux et tout ça. Eh bien, nous, non, figurez-vous, gloire à Dieu. Dites, je suis plus que vainqueur.
Je suis plus que vainqueur.
Alléluia. Dites, j'avance de tous côtés. Dites, je suis un succès constant. C'est la vérité, gloire à Dieu.